Les bonnes feuilles. 40 romans de la rentrée littéraire, lus par leur auteur. Aujourd'hui, Les eaux troubles du Morito, de Philippe Delerme. Aux éditions du Seuil.
Pieds nus dans l'aube de Félix Leclerc, un livre qui a pour moi d'abord été un CD que j'ai entendu et qui commençait par quelques phrases que je vais lire, qui ne sont pas exactement le début du livre, mais qui restent pour moi le début, parce que c'était un début qui m'avait donné un peu la chair de poule et qui m'avait parlé. Lorsque la famille était réunie à table et que la soupière fumait ses parfums jusqu'à nous étourdir, maman disait parfois « Cessez un instant de boire et de parler ». Nous obéissions. « Regardez-vous », disait-elle doucement. Nous nous regardions, sans comprendre, amusés. « C'est pour vous faire penser au bonheur », ajouta-t-elle. Nous n'avions plus envie de rire. C'est un très beau texte de Félix Leclerc. Donc, on le trouve un peu difficilement. En première édition, il est aux éditions Fides, donc une édition québécoise. Et en poche, il est aussi dans une édition québécoise, la Bibliothèque québécoise. Quand je le réécoute aujourd'hui, je suis surpris de sa force et de sa puissance, due en partie au fait que son accompagnement était très très sommaire et donc pas daté, avec un accompagnement de guitare un petit peu particulier, disons, mais très personnel et surtout une voix extraordinaire et puis un univers qui est resté aussi fort que dans mes souvenirs. Et puis voilà, quelqu'un qui écrivait des livres autant que des chansons, et ce qui est un statut qui existe un petit peu moins chez nous, je pense.
Et si vous aviez choisi, Philippe Delerme, de venir avec le début d'un roman classique qui aurait été comme voilà, le début magistral d'un roman pour vous, vous avez une idée comme ça de ce que vous auriez apporté ?
Wow, ce serait peut-être un souvenir très très ancien. Alors, il arriva chez nous un dimanche de 1880 et quelques, donc le début du Grand Môle, parce que voilà, c'est une lecture qui est dans l'enfance encore. C'est une lecture que j'ai faite en sixième, je me souviens très bien, dimanche pluvieux, puis c'est quelque chose qui m'a transporté tout de suite, parce que moi, j'étais comme le narrateur de ce livre. Je vivais dans une école où mes parents étaient instits. J'appelais mon père Monsieur Delerme, comme le narrateur appelait son père Monsieur Sorel, ce qui induisait une distance. Enfin voilà, il y avait tout d'un coup une impression, et cette impression d'attendre quelqu'un, d'attendre... Moi, j'attendais pas quelqu'un, en fait, j'attendais quelque chose. Mais j'attendais quelque chose, oui.
Philippe Delerme, vous vous apprêtez à publier un nouveau recueil de textes, Les eaux troubles du Morito et autres belles raisons d'habiter sur Terre, qui vont paraître aux éditions du Seuil, et vous allez tout de suite nous lire en avant-première quelques-unes de ces histoires.
Le mensonge de la pastèque. Elle est trop belle, étrange. Est-ce qu'on la boit? Est-ce qu'on la mange? Elle est comme une fausse piste du désir. Le rouge rose de cette chair meurtrie, évanescente et gorgée d'eau, vient mourir en pâleur maladive au bord de la solide écorce vert profond. Au centre, elle est si sombre, incrustée de grains inquiétants d'un noir d'ébène, pépins ou fer de lance empoisonné. Comment peut-on être si lourde de tant de rien, impudent, magnifié? Toujours ouverte sur les marchés de l'été, la pastèque s'exhibe en recours absolu contre une soif qui jamais ne s'étanche. À quoi bon l'acheter? On sent déjà qu'elle se dissoudrait sur la langue, neige écarlate bien trop tôt fondue. La mangue et la goyave ont goût de goyave et de mangue. La pastèque n'a goût de rien, et c'est donc elle qu'on désire en vain. Elle est la perfection de son mensonge, et les marchands le savent bien, ils l'exposent à l'écart et connaissent son rôle. Elle allume tous les regards, conjugue impudemment la moiteur, la fraîcheur, donne un peu de son insaisissable perfection aux fruits modestes qui l'entourent. Elle se vante effrontément. On ne l'achète pas par peur du ridicule. On sait d'avance qu'on ne pourra la posséder vraiment. Son goût est transparent. Elle n'est qu'un mirage de la chaleur et de l'été. Ses lèvres bougent à peine. On est avec lui dans le bus. Enfin, avec lui. Ainsi, juste en face, il est ici, ailleurs, partout. Il a 7 ans. Cours élémentaire première année. Cette année, il sait vraiment lire. Tout à l'heure, à peine sorti de la librairie et s'est emparé de ce petit album d'Yvan Pommeau à la couverture bleue lavande, il s'y est aussitôt embarqué, vaguement conscient de la réalité qui l'entourait, évitant les piétons, un peu comme un skieur de slalom ferait pour les piquets. Souvent, en le croisant, les gens souriaient et on se sent plutôt fier d'avoir pour petit-fils un dévoreur de livres. Maintenant, dans les soubresauts du trafic, on le regarde dans sa bulle, si loin, si près. Ce qui est fascinant, c'est l'imperceptible mouvement de ses lèvres. Il ne fronce pas le front ni les sourcils, mais il ne glisse pas encore sans effort sur la piste. Il lui faut ce déchiffrage, pas tout à fait fluide, sublimé par l'envie, la passion, le désir émouvant de posséder ce monde où il veut s'évader. On est sûr que si on lui lisait cette histoire, il sourirait souvent, mais il ne sourit pas. Son visage est pénétré, si grave. Il crée ses propres terres d'aventure, le secret silencieux de son éloignement. Ses lèvres bougent. Il boit à petits coups la magie difficile de l'échapper. C'est un travail encore, et c'est déjà la liberté. Il y a un code. On ne va pas le déranger avec un « ça te plaît, c'est bien ?» On sait qu'il ne faut pas brusquer l'embarquement des somnambules. On ne veut pas non plus le ramener à la réalité, la présence d'un grand-père avec son petit-fils dans un autobus bondé de fin d'après-midi. On vole de le regarder voler. On ne l'a jamais trouvé si beau. Ses lèvres bougent à peine. Danser sans savoir danser. Dans les fêtes de province, pendant les vacances, on faisait partie de ceux qui restaient arrivés à la table du café de plein air, en bout de piste. On regardait les artistes du passo-doble et du rock'n'roll. On admirait leur aisance, leur pouvoir. On se sentait si amoureux parce qu'on ne savait pas danser. Plus tard, on était de ceux qui n'allaient pas en boîte. Et puis voilà, la vie a passé. On se retrouve à un mariage. En général, on trouve ça ennuyeux, ces efforts de conversation avec les cousins de la mariée qu'on ne reverra jamais. Alors quand la musique s'installe, on choisit de danser. Danser, c'est un grand mot. On bouge comme un ours. Mais ce n'est pas grave, on a passé l'âge des susceptibilités. Chance, ça commence par un twist. On peut jouer sur son insuffisance au deuxième degré en pliant les genoux avec un mouvement des bras qui ne donne pas le change mais semble se moquer de toute une époque, la nôtre. Le problème, c'est que juste à côté, des beaucoup plus jeunes maîtrisent idéalement le twist, mais on n'est pas dans la compétition. Une valse, là aussi on peut tournicoter avec un sourire ineffable, Alain Delon dans le Guépard. Mine de rien, on commence à se sentir étrangement bien. On entre dans la peau des personnages qu'on feint d'imiter. Peu à peu, on oublie le regard des autres. On ne parodie plus, le risque de ridicule semble s'effacer. On se réconcilie avec son corps. On voit bien les gestes parfaits de ceux qui ont la vraie technique. Mais curieusement, on ne les envie pas. Ils ont toujours su danser, sans doute, et ne connaissent rien de la mélancolie de ne pas savoir. C'est tout à fait bon de sentir que l'infériorité devient supériorité. À ne pas savoir danser, on sacralise la danse. On lui donne tout son pouvoir. Toutes les années perdues en apparence font le bonheur présent et l'on se venge enfin du carcan de l'adolescence. La deuxième étoile. Presque 10 heures. La nuit de fin juillet hésite à venir s'installer, un style un peu de mauve dans le ciel et sur le sable brun. Ils sont les derniers sur la plage. Resserrés en carré comme un petit camp retranché, ils ont retardé à l'infini le moment du pique-nique. Ils ne sont pas propriétaires, ni locataire d'une maison, ni même d'un appartement, ça se voit tout de suite. Plus tard, il leur faudra s'engouffrer dans une voiture et rentrer vers les terres. Non, 2 voitures. Ils doivent être une dizaine au moins. Les enfants ont joué longtemps, poussé des cris d'effroi quand la marée a fini par détruire en quelques vagues les contreforts amassés à coups de pelle. Qu'ils en profitent, rien ne presse, on est bien là. Au loin, la terrasse du grand hôtel allume ses lumières. Ça ne doit pas être mal le cérémonial du plateau de fruits de mer, la bouteille de Sancerre perlée de gouttes glacées. Mais bon, qu'ils se battent avec leurs tourteaux. Le poulet froid de la glacière est savoureux, bien meilleur qu'à midi. Un peu de vent faisait voler le sable, le soleil tapait fort. Ils ont couru, se sont baignés, ont sorti les raquettes, le ballon, des magazines. Les hommes ont fait la sieste, le visage dans l'ombre du parasol. La femme âgée a surtout regardé les autres, un sourire de partage au coin des lèvres, tendant la joue à des baisers mouillés, empressés et distraits. Maintenant, la fraîcheur tombe. Ils se blottissent dos à dos, il reste encore des abricots. Les silences s'installent. C'était un beau dimanche, oui. Attendre que les derniers bouchons aient disparu avant le pont de Nantes. Attendre, reculer demain. Attendre que les joies dispersées laissent la place à l'idée du bonheur qui donne le frisson. Juste la nuit qui vient, enfiler un pull. Être si fort ensemble, quand les autres s'éloignent et qu'on se protège en carré. Tu dors, Leïla ? Non, j'attends la deuxième étoile. Les eaux troubles du Mojito. On fête la convivialité de se retrouver en terrasse, de parler sans restriction. Prendre un cocktail, c'est chaud. Il y a souvent des couleurs d'il, des rouges tropicaux, des saveurs de noix de coco, un petit côté soleil Club Med, à boire au deuxième degré en se moquant de sa propre soif, d'une gourmandise enfantine que le rhum va créoliser. Et puis, il y a le Mojito. Trrr, oui, oui, le mot est sud-américain. Mais on attend bien autre chose. On a beau continuer à suivre la conversation, feindre l'indifférence, quand le serveur dépose le verre sur la table, on sent qu'une aventure commence. C'est tellement pervers, tellement trouble. D'emblée, une invite à plonger, à s'embarquer vers des fonds sous-marins qu'on aura bien du mal à maîtriser. On va nager à la recherche d'une épave, peut-être, ou bien pour caresser des algues étranges qui veulent emprisonner ou caresser l'équivoque et tentante. Le mojito, c'est à la fois opaque et transparent. Dans les verts, bien sûr, mais dans les noirs aussi, avec des zones un peu plus claires à la surface et des mystères insondables tout au fond de l'apnée. On y trempe les lèvres, surpris de cette fraîcheur qui sait prendre les oripeaux d'une moiteur de marigot. Tout cocktail impose une consommation lente, entrecoupée de pauses, d'abandon, de retour. Avec le mojito, on ne domine rien. La dégustation devient fascination, et c'est lui qui commande. Le plus étonnant est cette persistance du sucré dans une mangrove au ton si vénéneux. On se laisse pénétrer par une fièvre froide, on s'abandonne. Au bout de cette errance glauque, on sait que vont venir une chaleur, une euphorie. Mais il faut dériver dans la forêt feuille de menthe, ne pas craindre de s'engloutir, abandonner l'espoir de la lumière, nager toutes les transgressions, se perdre, s'abîmer, chercher infiniment, descendre, alors montera le plaisir. Je pense que c'est un recueil qui contient pas mal de lumière. Et le sous-titre du recueil donc, est « Autre belle raison d'habiter sur Terre ». Et j'aimais bien le petit décalage que crée... les eaux troubles du mojito, parce que pour le coup, c'est vrai qu'il y a, dans le mojito, il y a aussi quelque chose d'un petit peu vénéneux, comme ça. Et j'ai trouvé qu'il y avait un petit déphasage entre les deux qui me permettait de distiller ma lumière, je dirais, celle que j'avais envie de donner, c'est-à-dire une lumière qui est pas évidente, qui s'impose pas. Et c'est un peu métaphorique aussi de ce que j'ai traversé dans ma vie quand j'ai écrit ces textes, la façon dont j'ai regardé des êtres. J'ai lu par exemple un texte qui concerne mon petit-fils lisant dans le bus, et il y en a d'autres qui sont plus durs et plus cruels sur l'accompagnement de fin de vie de gens très âgés, parce que ça a été ma vie. Mais en même temps, à travers tout ça, gay et triste, et parfois gay et triste en même temps, il y avait quand même aussi le désir de préserver ce qui donne le frisson, c'est-à-dire le moment où quand on ressent consciemment du plaisir et qu'on a envie de l'arrêter, juste après, évidemment, se pose quelque part où s'introduit la question du bonheur. Et ça, par contre, comme dans l'extrait de Félix Leclerc que je lisais, et c'est pour ça que j'ai choisi aussi, tout d'un coup, quand cette question se pose, enfin, c'est pas vraiment une question, mais c'est tout d'un coup quelque chose qui surgit. Ah oui, on est en train de frôler le bonheur, et tout d'un coup, ça fait extrêmement peur. On aurait pu, je sais pas, citer aussi Camus qui disait « Il n'y a rien de plus tragique que la vie d'un homme heureux ». Je crois que l'aveu délibéré d'une tentative de bonheur est quelque chose qui fait peur. Très très longtemps, le bonheur a été considéré comme quelque chose d'un petit peu méprisable, enfin un petit bourgeois, une espèce de refuge. Enfin, je me souviens de l'époque où Gainsbourg disait le bonheur sur une autoroute, ou même Renaud écrivait le bonheur c'est un truc de minable, carrément. Et je ne suis pas bien sûr qu'il le dirait aujourd'hui. Mais parallèlement, le bonheur est devenu quelque chose qui peut être désagréable, qui est dans tous les magazines, qui est contraire bien porté, qui se vend extrêmement bien en littérature. Et tout ça, bon, c'était mon truc depuis bien bien avant cette mode-là, puisque j'ai écrit un livre qui s'appelle Le Bonheur en 1983. Et j'ai vu ce mot, perdre de ses connotations qui paraissaient négatives dans les années 70-80 et qui sont devenues presque trop positives aujourd'hui. Mais malgré tout, c'est quand même mon truc. Et donc, je voulais que le petit rapport entre les autres troubles du mojito et les belles raisons d'habiter sur Terre soit comme ça représentatif d'un petit décalage qui est le mien par rapport à ça.
Provoquer le frisson, est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez, Philippe Delerme, dès la première phrase de chacune de vos histoires?
Alors là, non. Je pense à notamment quand j'ai lu ce texte, La Deuxième Étoile, le frisson n'intervient qu'au bout d'un long moment où on cherche rien d'autre que de passer une bonne journée sur la plage. En l'occurrence, c'est des gens que je regardais sur la plage, et comme il y en a souvent de ces gens qui viennent comme ça passer juste un dimanche et qui sont assez émouvants, parce qu'on sent que c'est pas des gens installés en vacances, c'est des gens pour qui la journée ne possède pas une connotation d'ennui comme pour les plus nantis, mais qui au contraire reste fragile. Et donc dans ce mélange de plaisir et de fragilité, il y a évidemment une espèce de tentative de dire ah oui, on est ensemble, on est bien, on est heureux, quoi. Il faut pour moi que les choses soient comme ça, vécues vraiment pour elles-mêmes, et qu'elles soient, elles ne deviennent des sujets littéraires que bien bien plus tard. Et je me dis jamais sur le coup, ah oui, ça serait un bon sujet quoi. Il faut que je fasse. Ou et même quand j'évoque des petites phrases, puisque ça m'est arrivé aussi de partir de petites phrases entendues, c'est seulement quand elles sont largement refroidies, reposées depuis longtemps, décantées, que je me dis, ah oui, là, il y avait quelque chose, il y avait de la vie à aller chercher, comme ça, dans une forme de minimalisme que je revendique complètement, mais qui traduit un peu autre chose. Mais c'est vrai que là, je ne suis pas du tout un écrivain sur le motif. Je pense quelqu'un de vivant. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé souvent d'être fasciné par des créateurs, je pense à François Truffaut, par exemple, qui mettait la création artistique au-dessus de la vie. Et je pense que moi, fondamentalement, je suis, j'espère, un artiste, mais qui met quand même la vie au-dessus.
Back in the day you had been part of the smart set. You'd holidayed with kings, dined out with starlets. From London to New York, Cap Ferra to Capri. In perfume by Chanel and clothes by Givenchy. You sipped Camparis with David and Peter at Noel's party by Lake Geneva, scaling the dizzy heights of high society, armed only with a checkbook and a family tree. You chased the sun around the Côte d'Azur until the light of youth became obscure and left you on your own and in. An English lady of a certain age. And if a nice young man would buy you a drink, you'd say with a conspiratorial wink, you wouldn't think that I was 70. And he'd say, no, you couldn't be.
A Lady of a Certain Age, Divine Comedy, Neil Annan donc. Une chanson que je trouve magnifique et symptomatique de cet arc que Neil Annan a à la fois d'enchanter le présent et en situant en même temps, en racontant une histoire, en l'occurrence en faisant défiler toute une vie, accroché au passage du temps. Moi qui suis un peu obsédé par l'arrêt du temps et la difficulté à l'arrêter, là c'est vraiment quelqu'un qui se pose en loser par rapport à l'arrêt du temps, puisque c'était une dame qui revendique une plus grande jeunesse au fur et à mesure qu'elle vieillit et qui trimballe pour autant et d'autant plus tout un monde de nostalgie. Voilà, dans lequel, qui n'est pas d'ailleurs mon univers personnel et littéraire, mais qui est vraiment l'univers des belles chansons qui me font vibrer, parce que les plus belles chansons, c'est toujours quand même les plus tristes. C'est pour le coup une chanson qui est à la fois lyrique et très mélancolique. Mais j'adore, si j'ai choisi aussi, c'est pas forcément parce qu'elle est métaphorique de ce que je suis, mais c'est parce que c'est dit avec une... le texte est beau et en même temps, il y a musicalement un grand lyrisme et une grande tristesse dans Niana.
Merci Philippe Delerm.
Merci à vous.
C'était Philippe Delerm qui présentait son recueil de courts textes « Les eaux troubles du Morito » à paraître aux éditions du Seuil. Les Bonnes Feuilles, Sandrine Trainer, Anne-Vanessa Prévost, Somanina, Stéphane Desmonts.